C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout, c'est quoi? Debout, debout les comiques.
Oui, allô, c'est quoi?
Oui!
Ah! Ah!
Allô, Suzanne!
Allô!
Mon Dieu! Ça va, la petite swing dans la voix, matin?
Oui, je suis coquine, à matin. Hey, je suis dans ma pause à l'hôpital. Hein? Je m'inspire d'ailleurs de l'hôpital pour écrire des shows de télé. À date, j'ai l'ambulance et compte, les beaux malaises cardiaques et le temps d'une plaie. Alors...
Ça va bien, ça va bien.
Ça va être hit! Mais là, oh, j'entends les gens qui me demandent. Ça va être quand, l'heure de ton bulletin de nouvelles dans la salle d'attente? Mais c'est maintenant l'heure de mon bulletin de nouvelles dans la salle d'attente! On part ça!
Vous écoutez le canal Gisèle avec...
Moi, je suis dans ma pause, puis je me fais juger. Ça a l'air que je pose. Quand je veux chanter, je crée des malaises. Je suis un peu mauvaise. C'est plate, ça te déplaise, parce que moi, je suis à l'aise. Fait que...
Gisèle, Gisèle, s'en fout! Gisèle, Gisèle, s'en fout!
Elle ne sera pas Star Academy, elle.
Là,
c'est
là,
sûr!
Là, 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 là.
Hein?
Ça fait du bien et du mal.
Exactement ça! Je suis le plaster de la chanson. Je te soigne, puis mané, tu tires! Puis...
Mais c'est comme si tu as mis le collant, ça appelait.
Exactement! Le tétanos de la chanson québécoise. Voici mon manchette.
J'espère.
Des images de Mars comme si vous y étiez. Quand même étrange que la vidéo sur Mars soit mieux réalisée que Big Brother.
Ouais.
Donald Trump va devoir dévoiler ses impôts. Wow! Ça a un peu dévié ton enquête, Martin, pour retrouver le salaire de Normand Brantois. Qu'est-ce qu'on ferait pas quand on est en renégociation?
Ouais.
Un chihuahua hérite d'une fortune de 5 millions.
Un chihuahua?
Oui. À 5 millions, quand il digne, tu le laisses faire.
T'es consentant.
Tu le regardes les yeux, puis tu dis, vas-y. Vas-y.
Mais voyons donc, non.
Mais à 5 millions.
Ah oui?
À 5 millions.
Si t'es moyen de te payer un chien 5 millions, tu peux t'engager un genou.
Mais c'est un potier qui est à toi. Combien tu charges pour ton genou, toi? C'est au pied carré ou... au poids?
Genou à louer, mais checker ça.
Pour la troisième année consécutive, un homme fait une diète pendant plusieurs jours avec uniquement de la bière.
Ah oui?
Les deux premières années, on était bien impressionnés. Là, on appelle juste ça le confinement.
Ouais.
T'avais pas fait ça, toi, t'as mis une diète avec de la bière,
deux
là.
Jours.
Je vois pas de quoi vous parlez.
Non, mais maintenant, là, t'as décidé de faire ça comme un stunt radio. On va juste boire de la bière, ça dure une demi-heure. Mais ça mal!
C'est donc... la seule affaire que j'ai choquée dans toute cette émission de radio-là. Ça fait 8 ans.
Un autre mauvais stunt radio qu'a engagé Patrice. Alors!
Vous faites toute une émission avec une citrouille sur la tête.
Oui, ça, c'est ami!
Ça, je l'ai pas choqué.
On s'en rappelle. D'ailleurs, la citrouille était pas vide. Il a fallu qu'elle mange tout l'intérieur au début. OK.
J'adore les courges.
Floride, une femme dans la quarantaine se fait passer pour une vieille madame pour avoir le vaccin. Faut-tu être assez folle pour se faire passer pour une vieille madame? Hein, Tammy? Pas pires amis.
Hein, Billy Tellier?
Pas pires amis, hein?
Vous avez quel âge, vous, Gisèle? Ouais.
Êtes-vous une vieille madame?
Moi, c'est très flou. Pour le gag, je suis très, très jeune aujourd'hui. Je suis dans ma ménopause.
Ouais.
Un enfant de 12 ans, admis à l'urgence, après avoir avalé 54 aimants pour voir s'il était magnétique.
Voyons.
Tu sais, quand t'es ado, tu ferais n'importe quoi pour attirer une fille avec des broches. Attends, ça s'améliore pas. Et finalement, pour respecter ses dernières volontés, un homme sculpte une guitare avec le squelette de son oncle décédé.
Voyons donc!
Excuse-moi, c'est donc pas dégueulasse.
Voyons donc!
C'était les dernières volontés de l'homme devenir une guitare, alors.
Mais voyons, c'est-tu le même propriétaire du Chihuahua?
Je sais pas ce qui se passe dans le monde en ce moment, là, mais tout ça pour dire que Martin, je pense qu'on a une contrebasse. Ben,
en fait, t'as un orchestre au complet.
Voilà.
Ben oui, absolument.
OK, c'est tout pour vos informations. Je vous laisse. Je vais à l'étage des personnes âgées. C'est l'heure du bain. Ça met tout le temps un malaise, pis c'est chez les patients quand moi je le prends.
Le podcast Debout les comiques.
Daft Punk, moi, c'est une formation qui a marqué ma vie parce que j'ai eu la chance, même je dirais le privilège, de les voir en spectacle. Daft Punk ne fait que deux tournées dans sa vie.
Okay.
Une en 1997, une en 2007. Et moi, j'ai vu l'arrêt en 2007 à Montréal.
En 97, t'avais 11 ans. Là.
Ouais. Ah, j'avais 11 ans. J'étais pas là à ce moment-là.
Non, mais ceci dit, donc, c'est un groupe avec lequel t'as grandi littéralement, toi-là.
Absolument. Ils ont fait 4 albums studio, ils ont fait 2 tournées, ils ont fait 28 ans au total de musique, les deux ensemble. C'est un duo électronique qui était absolument légendaire, qui s'appelle Daft Punk. Puis je dis « était » parce que hier, ils ont partagé sur YouTube une vidéo qui s'appelle « Épilogue ». Et on voit les deux gars ensemble dans la vidéo. Ça dure 9 minutes et demie à peu près. Et à la fin, il y en a un des deux qui se transforme en confetti et l'autre marche doucement vers le soleil. Et on voit que... Donc, on voit le Daft Punk, l'année du début, l'année de la fin, et on comprend que c'est la fin de Daft Punk.
Il n'y a pas de chicane, là. On a-tu entendu dire qu'il y avait eu de la chicane ou pas? Donc, là, s'ils ont fait ça, ensemble.
Mais c'est vrai dire, on n'avait rien entendu encore depuis 2013, là. Je veux dire, on n'a pas entendu depuis Random Access Memories du nouveau matériel.
Okay.
Les deux gars, on les connaît quand même très peu.
Thomas.
On sait que c'est Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter. Mm-hmm. On sait qu'ils se sont rencontrés en 87. C'est des étudiants à la même école. Ils ont eu un trio de rock à l'époque qui s'appelait Darlin et qui, paraît-il, était dégueulasse. Fait que les gars, tout de suite après, décident de se séparer du guitariste et décident de créer leur propre style qu'ils appelleront, ben, à vrai dire, ils s'inscrivent dans un style qui s'appelle le French Touch.
Okay.
Le French Touch, c'est de la musique électronique française.
Ils sont devenus DJ à ce moment-là.
Absolument. Ça donne des extraits comme One More Time.
C'est mondial, là. C'est gros, là.
C'est gigantesque. Ça, là, c'est l'audio du spectacle que moi j'ai vu en 2007.
Ah oui?
Ah, c'était incroyable. Puis dès que les gars ont sorti le disque en 97, il y avait des sacs de papier brun par-dessus la tête. Déjà, tu voyais qu'il y avait vraiment cette idée.
Ils construisaient.
Hein, ils voulaient vraiment que la musique passe avant toute chose. Puis c'est ce qu'ils vont avoir réussi à faire avec les années. Puis ils vont avoir réussi non seulement à faire passer la musique avant toute chose, mais les privilégiés qui ont vu les spectacles vont s'en rappeler toute leur vie. À l'époque, là, je sais pas, en 2007, là, c'est pas YouTube, c'est pas ce que c'est pantoute. Puis Daft Punk part en tournée, puis on n'a aucun accès à des images. On sait pas dans quoi on s'embarque.
Ça vous jette à terre à chaque fois. Là.
Écoute, ils sont en plein milieu d'une pyramide en LED avec des écrans gigantesques et ils mixent là-dedans. À cette époque-là, là, c'est du jamais vu. Là. Un concept de musique électronique aussi poussé que ça, ça n'existe pas. On n'a pas accès à ça à nulle part. On peut pas voir sur YouTube. C'est comme une révélation. Puis ça en fait pour plusieurs spécialistes de la musique, la formation électronique qui va avoir été le plus influente dans les dernières décennies.
Hein?
Absolument. Parce qu'ils ont travaillé tellement fort puis ils ont tellement repoussé les limites. On écoute un extrait de Around the World. Tellement danser là-dessus.
T'sais,
mais imagine-toi, là, le Sandbell était plein à craquer. C'était incroyable.
On depuis entend ce la foule.
Ouais, oui. Depuis ce temps-là, t'as Skrillex qui a construit un vaisseau spatial d'Enmars, un cube lumineux, Avicii, qui avait une tête géante. Ils ont comme vraiment tracé le chemin pour les autres DJ après ça.
Mais en même temps, quand ton concept, c'est de porter des masques, puis que là, tout le monde en a, t'as mané, tu fais « Bon, ben,
justement, en terminant, il y a beaucoup de théories sur Internet qui disent que c'est la fin de Daft Punk parce que les gars veulent se libérer des costumes et que là, peut-être que ce serait un prétexte pour revenir
qui mute en d'autres
sans
choses.
Les têtes de robots avec une autre, un autre concept peut-être. Mais en tout cas, t'sais, avec
peut-être
Daft Punk...
ils sont juste riches puis
peut-être
ils vont
sont
aller
plus capables.
Profiter de
ça leur
tente
plus pantoute. C'est bien correct aussi. En tout cas, ils vont nous avoir fait vivre des moments extraordinaires.
Et t'es pas la seule, Chantal à Dival, j'ai des frissons. Merci Valérie, Julie de la Chine, Steve Bélanger, fidèle, vive Daft Punk.
Ouais.
Daft Punk, effectivement. Ben merci. Merci Val. C'est très touchant comme épilogue. Allez le voir, cet épilogue-là.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Depuis hier, je vous propose un voyage dans l'univers de la radio des années 90. La quête que je me suis donnée comme objectif de réussir, c'est trouver le premier contrat radio de Normand Brathwaite, qui occupait la même chaise que j'occupe, mais il y a 30 ans. Et il était l'animateur radio le plus populaire de son époque. Et j'ai commencé ça hier en parlant avec Christian Tétrault pour essayer d'évaluer le salaire que Normand faisait ou même le demander carrément. Christian avait juste une hypothèse. On va plus loin ce matin. Je parle à Luc Tremblay, qui est un de nos grands patrons ici, mais qui était le compétiteur direct de Normand Brathwaite. On écoute ce que ça donne.
Les comiques. Enquête.
J'ai commencé mon enquête hier dans le but de savoir combien gagnait Normand Brathwaite.
Wow! J'ai trop de bonheur!
Pour trouver la réponse à ma question, j'ai décidé d'appeler Christian Tétrault.
Normand qui avait une super agente, là. Oh, tabarnouche, ça a dû cacher.
Normand, faisais-tu 100 000 par année, son premier contrat? Faisais-tu...
À son premier contrat, je sais, probablement.
Il y a un gars qui travaille présentement avec nous chez Cogeco Média, mais qui, à l'époque, était directeur des programmes du côté de CKMF, le compétiteur de C'est quoi?
T'as été mon premier patron radio à Montréal.
Je t'ai découvert.
Tu m'as découvert.
Luc Tremblay. Tu fais de la radio depuis le début des années 80. Et ma quête, j'ai besoin de toi parce que au tournant des années 90, Normand Brathwaite a pris le show du matin ici à C'est quoi? Et il est rapidement devenu, je pense, un des leaders en radio. Vraiment, je me souviens des slogans, la seule radio millionnaire, c'est quoi et autres. Donc, il est devenu ton compétiteur parce que toi, tu dirigeais à l'antenne opposée. Mettons,
ça a pris
quoi.
2 ans, puis il est devenu numéro 1.
Ah oui, pour
en
vrai?
En 2 ans, il est devenu numéro 1.
Deux ans?
Ouais, c'est ça. Il est rentré en 91. À partir de 93, il était grand numéro 1 dans le marché.
La vraie affaire, c'est que personne croyait au potentiel de Normand Brathwaite chez l'ennemi. En fait, il riait même un peu de lui.
Il était tellement mauvais qu'on prenait des gageures sur le temps qui allait durer. Fait qu'il y en avait qui disaient, il se rend pas à l'action de grâce. Fait qu'on gageait, il se rend pas à Noël. Normand a été innovateur dans ce qu'il a amené. T'sais, il a amené une vérité à l'antenne. Ça, c'était sa grande qualité.
Ça brisait le moule.
Ça brisait le moule. Il savait pas comment le mettre en onde, mais il a appris la technique, les techniques de la radio, d'animation, de comment tenir une intervention, comment animer un show, mettre une arme dans un show, donner de la cohésion à tout ça.
Je capotais d'apprendre ça. Il y avait un pool parce que le gars que moi je trouvais bon, ben les compétiteurs, eux autres, ils riaient de lui. Mais comme ça s'est mis à très bien aller pour Normand à C'est quoi, la stratégie du compétiteur était d'affaiblir « Il y a trop de bonheur ».
T'essaies d'améliorer ton produit, ça marche pas. Fait que là, tu prends une autre approche, tu te dis, je vais essayer de démolir l'autre.
Alors démolir là, leur produit?
Ben, je vais essayer d'attaquer son produit. Okay, je vais essayer d'aller chercher des éléments dans son produit qui peuvent fitter dans le mien et donc affaiblir, faire ce qu'on appelle au hockey une game de 4 points.
Ouais, ouais. C'est,
je vais aller chercher un élément clé.
Fort de l'autre côté puis l'amener de mon bord pour en bénéficier de ce talent.
Alors, moi, j'ai approché François Pérusse à la fin de la deuxième saison.
Mon Dieu, OK.
Qui était très bon. Écoute, il y avait un buzz, évidemment, sur François. Les enfants se passaient cassettes dans les écoles. C'était des cassettes à l'époque, se passaient cassettes dans les écoles.
C'était fou.
C'était fou, là. C'était vraiment, il y avait un gros, gros buzz.
Mais là, parle, jase avec Luc Tremblay, là, il a fini par me parler du salaire de François Pérusse.
Fait que je l'approche et je lui dis, François, viendrais-tu avec nous autres? Regarde comment je suis fin, puis tu sais, on pourrait mettre de l'argent, puis combien tu coûtes? Puis il me dit, écoute, je fais 50 000 piastres par année. Et là, je dis, ben écoute, je te donnais 75 000. Et dans l'échelle des salaires de radio de l'époque, c'est pas beaucoup, même si on est en 94.
Bon, 1994, François faisait 50 000, on lui offrait 75 000 parce qu'il était très hot. J'imagine que Normand gagne donc plus que 75 000. Et là, je sentais que Luc Tremblay pouvait peut-être m'en révéler un peu plus, donc je me suis lancé. Comment tu penses qu'un gars comme Normand, mettons, son premier contrat, en entrant là avec le talent qu'il avait, c'est-à-dire pas très convaincant, il gagnait combien, d'après toi, son premier contrat?
Il devait pas faire beaucoup, beaucoup de sous. Quand même un peu, parce qu'il y avait une carrière qui débutait, mais ça devait pas, tu sais, ça devait être dans les 6 chiffres, quelque part entre, tu sais, pas des centaines de milliers de dollars, quelque part entre 100 et 200 000, à mon avis.
Pour ceux qui se le demandent, Luc Tremblay et ses KMF ont mis des années à trouver comment battre Normand Brathwaite et ça a coûté très cher à Luc.
Perdu ma job, moi.
Ah oui, ça t'a amené à perdre ta job?
Ben oui. Écoute, c'est quoi nous a rentré dedans? Puis à un moment donné, ma boss est venue me voir puis m'a dit « On pense que t'es plus l'homme de situation. » Puis j'ai perdu ma job à cause de Normand.
OK, Christian Tétrault n'a pas la réponse. Luc Tremblay n'a pas la réponse. J'ai pas le choix. Faut que je trouve une façon de parler à Normand Brathwaite. Puis je pense que j'ai quelqu'un. Mon boss actuel, Mario Soucy, a été le metteur en onde de Normand Brathwaite. Déjà, c'est son ami. C'est sûr qu'il a son téléphone. Je vais lui demander directement « C'était combien ton premier contrat? »
Fait que là, Pierre Arquin était tout fier de me faire mon chèque. Ça veut dire que le show marchait. C'est que Manoné, il trouvait qu'on marchait peut-être un peu trop.
Les comiques enquêtent. La suite, demain.
Demain, tu parles à Normand Brathwaite, donc. Tu as parlé, là.
J'ai parlé à Normand Brathwaite. Et je, oui, j'ai parlé à Normand Brathwaite.
Mais j'en reviens pas. Déjà, le salaire de François Pérusse, là. Déjà,
ben,
qu'il était eu ça. Moi, déjà, il y a une partie de ta cage qui me satisfait, là, on dirait.
C'est fou raide. Et pour vrai, j'ai vécu un voyage à travers ça aussi. De l'autre côté du miroir, vraiment.
Ben,
moi, je voyais une réalité, mais on est juste en arrière de tout ce que je voyais qui me faisait triper puis qui m'allumait. Et je salue.
Fascinant.
Et merci à Christian et à Luc de s'être prêté au jeu. D'avoir comme ça révélé. Puis j'en ai bien plus long que ce que j'ai laissé en onde. Là. Pour vrai, ça durait une demi-heure, 45 minutes à tous les fois, avec beaucoup. J'espère que vous tripez autant que j'ai trippé à faire cette quête-là. À continue demain, je parle directement à Normand Brathwaite demain dans Debout les comiques.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Debout les comiques.
Elle se décrit elle-même comme une décor artiste d'intérieur et une coach de vie. Elle est avec nous en studio ce matin. Bon matin, Myriane Chantal.
Ah. Bravo, Martin. T'as bien prononcé mon nom. Moi, c'est bien Myriane Chantal.
Oui.
Myriane en l'honneur de la déesse mésopotamienne du soleil. Et Chantal, c'est en l'honneur de la truie apprivoisée de mes grands-parents.
Okay. Elle s'appelait Chantal.
Ah, ouais.
Tu l'as dit, Martin, moi, je suis une décor artiste d'intérieur. Je suis aussi une âme architecte.
Ah bon?
Ah, ouais.
C'est-à-dire une architecte de l'âme. Je construis des ponts entre les gens et j'aide ceux-ci à s'élever plus haut grâce à des ascenseurs et des ascensfrères. Voyez-vous?
Ben oui.
Ah, wow.
Tout se tient.
Malheureusement.
Ouais. De ton côté, Billy, je sens chez toi beaucoup de noirceur intérieure.
Ben oui.
Moi, personnellement, je te percerais donc un grand trou entre les deux yeux pour faire un genre de puits de lumière.
Ah oui? Il y a comme besoin que ce soit pas un trou, là.
Un peu direct.
Mais je suis pas ta thérapeute. Non, tu m'as pas choisi. Hey, vous le savez, les cinémas s'apprêtent à réouvrir.
Oui.
Et moi, j'en suis bien heureuse.
Ah oui, hein?
Ah, comment ça?
Ben, j'adore le cinéma, Valérie.
Vrai, oui.
J'aime autant le petit film indépendant roumain sous-titré en danois que le gros blockbuster ukrainien sous-titré en langage des signes.
Ah bon?
Je ne fais pas de...
C'est pas le fameux gros blockbuster.
Un large registre. Oui. Et en fait, j'aime autant le cinéma que de faire brailler des enfants dans les autos tamponneuses avant les films.
Ouais.
J'adore ça. Les cinémas, vous savez, bon, je vais parler d'actualité, ils se plaignent de pas pouvoir vendre de pop-corn.
Ouais.
Mais comme le film est une nourriture pour l'âme,
ouais,
a-t-on besoin d'une nourriture pour l'estomac?
Bon.
Toi, Martin, tu connais ta réponse. Tu
mangerais
ton âme si tu pouvais mettre du beurre dessus.
Ouais.
Mais je trouve ça important de soulever la question.
On peut.
Hey, moi, toi, je parle pas, toi. C'est de moi. Moi,
non, oui.
Vous savez, en plus d'être une autrice à succès, je suis aussi une réalisatrice de films.
Non!
Ouais.
Non.
Oui. Parce que quand je proposais mes livres, on me répondait souvent « Ah, je vais attendre le film.
Hein? » Ouais.
Mais maintenant, vous avez plus le choix. Vous avez plus le choix. Alors, j'ai réalisé tous mes films avec un budget de 20 $.
Ah ouais?
Oui, j'appelle un Uber, je lui demande de filmer avec sa caméra de recul.
Okay. Ouais.
On dit souvent que mes images ont un grain particulier. Mon secret? La gadoue.
Wow.
Alors, c'est le genre de film que je réalise, c'est des films de croissance personnelle.
Ah oui, hein?
Qui mettent toujours l'accent sur le positif.
Ah bon?
Oh, j'aime
ben
ça.
Mais vous me connaissez.
Ben,
hein?
ben oui.
Par exemple, je vous suggère mes films que j'ai réalisés. Chérie, j'ai réduit les carences émotionnelles des enfants.
Ah bon?
C'est excellent. C'est un bon 72 minutes. Il y a aussi Rapide. Et parfaitement sécuritaire.
Ouais.
Pas dangereux, on est positif.
Wow. Hein?
Oui.
Les complices, on est positif. Je vais vous appeler mes complices.
Oui,
ça
va. Ça nous va, ça nous va.
Ah,
moi, j'adore ça.
Je déteste.
Oui. Mais aussi, finalement, le troisième film, je perds le film.
Oui.
J'ai réalisé aussi la bucket list de Schindler. Alors, je vous laisse avec une dernière pensée.
Oui, mais non.
On dirait que non, dirait que ça se peut pas.
Oui, ça se peut pas que tu l'aies pas vu encore.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça se peut pas que je l'aie pas vu.
Je vais t'envoyer un lien, tu vas voir. Nice. Tu vas pouvoir le visionner directement de ton salon.
Dans ma corbeille.
Une dernière pensée. Non, pas à côté de ta corbeille, ça a des émanations, ça. Dans les corbeilles, on jette des choses. Ça peut être olfactivement néfaste. Alors, ta grippe, c'est comme une odeur de Axe. Pas besoin de la partager à tout le monde. Non. Paix intérieure.
Bye.
Bye, Myriam.
Wow.
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Décidément, on est animé. Vous êtes animé sur la messagerie texte en tabarouette. On boycotte ou pas les Jeux olympiques de Pékin en 2022?
Emmanuel Perrault est clair. Il faut boycotter afin d'éviter de faire l'erreur qu'on a faite en 1936 avec les Jeux de Berlin. Il dit, on doit boycotter les Jeux de Pékin parce que la différence aujourd'hui, c'est qu'on est bien au courant de la situation.
Mais justement, ça, c'est l'ancrage historique. Mon premier ancrage, je suis contre. En fait, je suis pas d'accord avec sa lecture qu'il fait des Jeux olympiques de Berlin. Les Jeux olympiques de Berlin, là, ça a révélé au monde entier Jesse Owens et ça contredisait exactement la théorie des Allemands qui était la race aryenne blanche et blonde et supérieure. Ce qui méprisait le plus est aller les battre dans leur face.
Il n'y aura pas du Ouïghour aux Jeux de Pékin.
Il n'y aura pas de Ouïghour, mais nous, en bannissant ces Jeux-là, on s'empêche premièrement d'aller là témoigner de ce qui se passe, la présence aux Jeux olympiques. Je pense, Billy, c'est un peu l'ancrage.
C'est exactement mon point. S'il n'y a pas de Jeux olympiques présentement, on n'est pas du tout en train de parler de cette
réalité.
Situation-là. Ouais. En tout cas, moi, j'en ai pas conscience, puis ça se passe pareil. Alors que là, on le sait. Alors, je me dis, si en plus, il y a des Jeux olympiques, ça met la lumière sur cet endroit-là.
Mais c'est la fête, les Jeux olympiques. C'est la fête. C'est dans une ambiance de fête.
Oui, t'as raison, mais on a boycotté le Canada, les Jeux olympiques de Moscou en 1980 pour aucun bénéfice. Sans rien changer, sauf que nos athlètes sont juste pas allés aux Olympiques là, à ce moment-là, en 80. Je pense que ça donne rien de le faire, puis il y a une hypocrisie là-dedans, pour vrai. Arrête de vendre des armes en Arabie Saoudite. Arrête de faire affaire avec la Chine si tu veux tout faire, mais juste boycotter les Jeux.
C'est la voie facile pour le gouvernement de dire c'est les athlètes qui vont payer, alors que tout ce que tu fais comme
commerce... Toute ta vie tourne autour de la Chine.
Je comprends cet argument-là, mais c'est
embrasse
pas de se dédouaner en faisant « oui, mais on fait rien d'autre
».
Je trouve que c'est facile quand même.
Mais justement, à ce niveau-là, il y a Geneviève Simon sur le Facebook de C'est quoi qui dit oui au boycott. La Chine, c'est pas un bon exemple pour les droits de l'homme. Puis si le Canada embarque, ça risque de faire boule de neige. Puis peut-être qu'il y a plein d'autres pays qui vont suivre. Puis c'est sûr que pour nos athlètes, ce serait terrible. Mais effectivement, peut-être peut-on trouver un autre pays qui a déjà les infrastructures et qui va recevoir de manière impromptue, mettons, les Jeux olympiques. Mais c'est sûr qu'on peut pas, si tu envoies tes athlètes là-bas puis que tu continues à faire les Jeux olympiques à Pékin, t'endosses d'une certaine
manière. La tenue des Jeux olympiques est un endossement de la population mondiale vis-à-vis la Chine. Ils ont été accordés ces Jeux-là, puis ils sont là.
Mais vu que la lumière est mise là-dessus puis qu'on est plus au courant de ce qui se passe, peut-être, mais c'est là qu'on devrait réfléchir puis se dire, mais peut-être que je trouve que c'est pas une bonne idée d'aller faire les Jeux olympiques à Pékin puis de célébrer aussi la culture chinoise parce que c'est ce qu'on va faire aussi.
Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, les Jeux de Pyongyang qui n'étaient pas en Corée du Nord, ils étaient sur la frontière très proche. On n'était même pas en Corée du Nord et jamais on a parlé autant du régime nord-coréen parce qu'on était proche, parce que c'était à côté, parce que c'était à vue de nez, puis à vue d'oiseau. Imaginez si on est en Chine même. Je pense que ça va être encore plus de bénéfices pour ceux qui sont opprimés là-bas.
Au Brésil, par exemple, on est allé là-bas, on a fait les Jeux olympiques là-bas. On a témoigné du côté hyper violent. Puis en ce moment, le Brésil est encore hyper violent. Ça n'a rien changé.
La pauvreté,
et voilà, c'est épouvantable.
Sinon, au parc citadin, proche des chutes de Saint-Philippe, là, dans le bout de Mont-Laurier, il y a une petite piste d'Hébertiste, pas piquer des verres.
On pourrait peut-être
aller là.
Billy est en train. Billy a toujours une solution. Oui. C'est ça que j'aime de ce gars-là.
Peux-tu pas tenter du bobsleigh?
Il y a des tailleurs dans le sol, tu sais, comme tu vois juste à moitié, ça, d'après moi, ça peut faire des beaux jeux.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
Debout les comiques.
C'est 23.